Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Septembre marque le début d'une nouvelle saison pour Basilic et je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère surtout que mes invités ne cesseront de vous surprendre et de vous inspirer. Bonne nouvelle, grâce à vous et à votre soutien, je peux désormais vous proposer un épisode par semaine et donc vous faire découvrir une multitude d'initiatives positives qui embellissent notre planète. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir de très beaux projets et contribuer à leur réalisation, je vous recommande vivement de jeter un œil chez Mimosa, la première plateforme de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation durable en France. Grâce à Mimosa, vous pourrez soutenir des projets durables, tels que la conversion en agriculture biologique, la création d'épiceries vrac ou encore des projets d'apiculture. Non seulement, Mimosa vous permet d'apporter votre soutien à de chouettes initiatives, mais il vous offre également la possibilité d'investir votre argent de manière durable. Durant tout le mois de septembre, Mimosa lance le mois de l'épargne positive. Vous pourrez retrouver sur leur site internet des astuces et des conseils pour placer vos économies et devenir acteur d'un futur plus durable. Je suis très heureuse d'avoir le soutien de Mimosa pour la réalisation de ce premier épisode de la saison 3, car nous partageons les mêmes valeurs. Je vous invite à consulter leur site internet mimosa.com. Et comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces informations dans la description de l'épisode. Cette semaine, je reçois Sonali Figueras, blogueuse et journaliste à Hong Kong. Sonali est franco-indienne, elle a grandi à Hong Kong et a décidé de lancer, il y a plus de 10 ans, un site internet regroupant les adresses green de la ville. Aujourd'hui, son site, Green Queen, attire plus de 150 000 lecteurs par mois et est le site de référence lorsqu'on parle d'environnement à Hong Kong. Je vous laisse découvrir Sonali, belle écoute à tous. Bonjour Sonali.
Bonjour, enchantée d'être là avec toi.
C'est avec grand plaisir que je te reçois pour cette troisième saison de Basilic. Donc toi, tu es un petit peu la reine du green en Asie, à Hong Kong surtout, mais aussi en Asie, puisque tu diriges maintenant depuis 10 ans un site internet, webzine, consacré à l'environnement, au bon plan écolo, au resto très sain, bio, etc. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Est-ce que d'abord tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, absolument. Alors, je m'appelle Sonali Figueras, donc je suis la fondatrice de Green Queen, ainsi que de Eco Warehouse, qui est un site dirigé plutôt au B2B, enfin, c'est pas trop pour les consommateurs. Et ça, c'est une plateforme bio, où essentiellement, on met en contact les producteurs bio avec les acheteurs bio commerciaux de partout dans le monde. Mais je suis un peu plus connue pour mon site Green Queen, que j'ai commencé en 2011. C'était plutôt un blog à l'époque. Et puis en 2013, on l'a converti en média pour pouvoir avoir une voix en Asie pour tout ce qui est éco-wellness, on appelle ça. Donc tout ce qui est santé, tout ce qui est écologie. En fait, on réunit les deux, ce qui est un peu différent. Parce que pour moi, tout ce qui est sain pour l'humanité est sain pour la planète et vice-versa. Donc voilà, je suis née à Hong Kong, mais je suis moitié française et moitié indienne. J'ai grandi à Hong Kong et j'ai aussi passé du temps à Singapour. J'ai fait ma fac aux États-Unis. J'ai travaillé à New York et à Londres. Et après, je suis revenue à Hong Kong il y a presque 12 ans. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé avec Green Queen. J'essayais de vivre une vie un peu plus verte, un peu plus écolo, un peu plus saine. Et j'ai eu du mal à trouver des ressources et à me diriger au bon restaurant ou aux produits que j'avais besoin. Je ne les trouvais pas. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais une liste que j'ai appelée « My Green Address Book ». Et je me suis dit, il doit y avoir des gens qui en ont besoin aussi. Et donc, j'ai mis ça en ligne, sans plan vraiment, sans vouloir créer une boîte de médias. Et immédiatement, il y a eu un sort de retour. Une communauté s'est formée et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui cherchaient les histoires, les ressources. à l'époque, j'avais aussi la chance de pouvoir connaître des chefs, des fondateurs qui étaient dans l'espace et qui essayaient de faire quelque chose, que ce soit avoir une ferme bio à Hong Kong ou avoir un restaurant végétarien fait différemment de ce qu'il y avait avant. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas raconter leurs histoires et les partager. Et donc, j'ai commencé à avoir un... Je me suis dit, OK, on va avoir un mail toutes les semaines. On va se mettre sur Facebook, ce que je ne connaissais pas du tout. Parce que ce n'est pas du tout mon... Les réseaux sociaux, ce n'est pas trop mon truc. Mais je me suis rendu compte que ça pouvait être une façon très puissante d'attirer des gens et de créer une communauté. Donc on est parti sur ça. Et puis, voilà. Et puis,
ça fait 10 ans que ça dure.
Voilà, et le monde a changé, heureusement. Donc, ce qui est un peu unique, c'est qu'on était vraiment la première média dans la région à dire, OK, le monde va changer. On va avoir une sorte de changement de consciousness et on va se rendre compte que la façon dont on vit ne marche pas. Que ce soit écologiquement, d'un point de vue de santé globale, ça ne marche pas. Et il faut qu'on repense tout. Et j'ai vraiment vu ça, j'ai vraiment senti ça il y a très très longtemps. Et donc, je pense que c'est ce qui a donné à Green Queen beaucoup de crédibilité. Parce que vraiment, on a commencé à raconter ces histoires, à partager les services, les idées, les innovations il y a très 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 longtemps. Je pense que par exemple, je te donne un exemple, on a parlé de Impossible Foods en 2015. Personne n'en avait entendu parler, mais nous, on en parlait. On a commencé à utiliser le terme « zero waste » en 2012. À l'époque, ces articles n'étaient pas très, très, très populaires, en fait. C'était des articles qu'on mettait en ligne parce qu'on les trouvait très importants. Mais c'est marrant parce que, bien sûr, ça a complètement changé. Les derniers 18 mois, il y a eu un immense changement global. Je pense que la guerre contre le plastique est devenue un mouvement incroyable. Je pense qu'on a récemment fait un article sur Plastic Free July et ils ont annoncé qu'ils ont eu 240 millions de participants. Donc le monde a changé. Mais ce qui est important, c'est pour nous et moi en tant que éditeur, c'est vraiment d'être là en train de dire qu'est-ce qui va venir dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pas seulement de raconter ce qui se passe aujourd'hui, mais vraiment voir dans le futur et rester à l'avance de toutes ces innovations et de tous ces mouvements et de toutes ces campagnes globales.
Et est-ce que tu as douté à un moment de toi, parce qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas autant. Voilà, avoir un blog axé écologie, environnement, santé, c'était un petit peu, j'imagine, surprenant. Et est-ce que tu as douté de toi à un moment ? Est-ce que tu t'es dit, non, en fait, c'est pas la bonne direction ? Ou comment tu as pu être convaincu que vraiment le monde allait tourner dans cette direction ?
Alors, de oui et non, c'est une question un peu compliquée et je te la réponds en plusieurs parties. Alors, est-ce que ça m'a dérangé que les gens me doutaient de moi ou de ce qui allait changer? Non, j'ai une personnalité très
affirmée.
Je suis taureau, donc j'étais convaincue parce que en fait, moi, je viens d'un point de vue de recherche et de date. Donc moi, je suis arrivée à l'écologie et cet intérêt pour la santé et comment on allait changer la façon dont on vit parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches. C'était après plusieurs années de recherche. J'étais très, très malade pendant plusieurs années. J'ai des conditions qui sont chroniques, mais qui n'ont pas de... je ne peux pas être guérie. Donc, j'ai Hashimoto's thyroiditis et j'ai l'endométriose. Deux conditions, on va dire, de maladies qui n'ont pas de... On ne peut pas les faire guérir. Je ne peux pas prendre une pilule et demain, ça va. Donc, c'est des choses avec lesquelles je dois vivre pour le reste de ma vie et je dois les gérer. Et j'ai après beaucoup de recherches et des tonnes de visites aux médecins qui ne comprenaient rien, qui n'étaient pas intéressés, qui franchement s'en foutent de maladies qui concernent plutôt les femmes et qui n'ont pas de revenus pharmaceutiques, disons. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre comment on mange et comment je me sentais. Et bien sûr, j'ai grandi, je suis française, je suis indienne, je viens de deux cultures gastronomiques très importantes. Globalement, je viens d'une famille super obsédée avec la bouffe. Ma mère, elle a écrit un livre de cuisine. On mange, tout ce qu'on mange, c'est fait maison. Tu vois, j'ai pas grandi avec un
fast food.
Voilà, pas du tout. J'ai totalement grandi tous les jours, on a mangé ensemble en famille. Enfin, c'est super important. Se nourrir chez moi, c'est très important. Mais par contre, j'avais pas compris le concept de l'ingrédient, d'où vient ce que je mange. Je connaissais le côté artisanal, juste parce qu'on est français. Et puis, le terroir, c'est un concept très français. Enfin,
Bien sûr.
On s'y connaît d'un point de vue un peu plus opaque, si tu veux. Quand tu grandis, tu penses pas trop à ça. Mais c'est vraiment quand j'ai compris le lien entre l'agriculture et le système d'agriculture. Et j'ai commencé à comprendre ce que c'était l'agriculture biologique. C'est là où j'ai vraiment compris, OK, d'accord. C'est pas seulement ce que tu manges, c'est d'où vient ce que tu manges. Et ça en fait, c'est un aspect qui peut être très important pour ta santé. Donc après que j'ai fait cette connexion, j'ai compris cette connexion, j'ai voulu apprendre plus et je me suis mise à faire des recherches et c'est là où j'ai fait la connexion avec l'environnement et que l'agriculture et l'environnement sont complètement liés. Donc une fois que tu comprends cette connexion, tu peux pas vraiment l'ignorer. Et le plus de recherches que je faisais, le plus que j'étais convaincue que, OK, d'accord. D'abord, pourquoi est-ce que tout le monde n'en parle pas? Et c'est là où j'ai pris le point de vue que c'était ma responsabilité de partager et d'en parler. Et j'étais assez convaincue dès le début que ça allait venir.
Ouais.
Donc, quand les gens ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu quittes la finance, tu quittes pour faire... j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, c'est vraiment le vert, c'est et vraiment, et là je pense que c'est très important aussi de parler d'un peu de la misogynie, hein, parce que la majorité des gens que je connaissais dans le bio et dans le vert, et surtout en média, c'était des femmes, et qu'en termes de femmes, on est facilement ignoré, on est facilement on n'est pas pris au sérieux, donc c'est très facile de dire, ah, c'est un truc lifestyle bio, c'est un truc un truc un peu con, tu vois, ouais, c'est un truc de meuf, toi. Mais pas le prendre au sérieux. Par exemple, si j'aurais été un homme, je pense que j'aurais été écoutée différemment. Enfin, ça, c'est clair. Je suis convaincue de ça. Mais pour moi, à travers le trajet, les choses changeaient. Il y avait une sorte d'accélération. Enfin, je voyais que ce que... par exemple, j'ai commencé une plateforme bio avant que personne ne connaisse que c'était le bio. Franchement, ici, tu ne pouvais même pas acheter bio. Maintenant, le bio, c'est dans tous les supermarchés. Donc, moi, je voyais qu'il y avait des références, il y avait des news, surtout, je pouvais comparer ce qui se passait globalement à ce qui se passait ici. Donc, je savais qu'il y avait un sort de délai ici et que ça allait se passer. Aussi, ce qui est bien avec Hong Kong, c'est qu'une fois que quelque chose arrive, ça arrive très vite. Ouais. Donc, je savais qu'il fallait juste être un peu patiente. Maintenant, le temps d'être patiente, c'est un peu fini. Maintenant, on n'a vraiment pas le temps. Mais ouais, c'est les gens qui n'étaient pas convaincus, ça me dérange pas. Ça m'a pas trop dérangé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai douté de Green Queen en termes de business. Parce qu'au début, c'était mon blog. Et puis après, on a dit, OK, on va le transformer en média pour partager des ressources. Parce que pour moi, écrire et partager des ressources, ça fait partie de ma personnalité. C'était facile pour moi de produire ce contenu.
Ouais.
Mais ça m'a pris quelques années pour vraiment le prendre au sérieux et pour me rendre compte qu'en fait, Green Queen, c'était devenu un truc assez important. Les gens, ils me le disaient, ma partenaire de business pour EcoWarehouse, elle me le disait tout le temps, mais j'étais là, c'est Green Queen. Et en fait, j'ai eu un peu cette attitude que beaucoup de gens ont, que je me suis dit, ah, c'est un truc de lifestyle, tu vois, c'est... Je ne me suis pas rendu compte à quel point ça avait touché les gens et à quel point la marque s'était vraiment installée à Hong Kong et était devenue quelque chose. Et après, les gens ont commencé à me demander de parler. J'avais beaucoup de presse sur Green Queen et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Et quand j'ai regardé les chiffres de notre base, c'est là où je me suis dit, OK, c'est pas faut que j'accepte qu'en fait, sans faire exprès, j'ai créé deux business. Ça a pris un peu de temps d'accepter ça.
Ouais, de le réaliser, de le monétiser, de vraiment...
La monétisation, en fait, c'est passé tout de suite.
D'accord.
C'est-à-dire que dès le début, on avait des marques qui nous approchaient, qui nous disaient « on veut travailler avec vous ».
Mais même en étant monétisé, tu n'arrivais pas à dire « ok, ça, c'est vraiment une activité professionnelle ».
Je pense que j'étais un peu... Je ne le prenais pas assez au sérieux parce que je ne sais pas si c'était parce que ça a commencé en termes de blog. Je ne sais pas. Je pense que j'ai pris au moins un an et demi à vraiment me dire « Ok, Sonali, ça, c'est vraiment sérieux. » Et ça a du pouvoir. Et ça peut vraiment influencer les gens. Et j'ai recevé des emails de gens qui me disaient « Green Queen, ça a changé ma vie. Tous les jours, j'ai les Green Queen. J'ai déménagé à Hong Kong et Green Queen, ça m'a sauvée parce que maintenant, je sais où trouver tout. Je sais qu'il y a des gens à Hong Kong où il y a des gens qui m'écrivaient, qui me disaient « On m'a offert un job à Hong Kong, mais je n'étais pas du tout sûre que je voulais venir. » Et après, j'ai vu Green Queen, je me suis dit « Ok, d'accord. C'est une ville qui a une communauté écologique. Il y a du bio, il y a des gens qui sont passionnés par ça. Enfin, il y a des gens avec qui je vais m'entendre. Donc...
J'avoue que ça m'a rassurée aussi. Hein. C'est... Quand j'ai déménagé ici, c'était un peu ma bible. C'est toujours, mais...
C'est vrai.
Ça me fait
plaisir, mais je te dis ça vraiment très personnellement. Je pense que j'ai, en tant que femme, je ne me suis pas assez pris au sérieux. Je me suis pas assez dit, écoute, t'as achevé quelque chose ici. Hein. Parce que je me disais, ah, c'est pas... je sais pas, c'est pas... Un, je venais pas d'un background de média. Deux, je me disais que c'est quand même... Je le mettais un peu... Je le mettais pas assez en avant. Je me disais, ah, c'est petit, c'est quand
tu
même...
Tu le rabaissais un petit peu.
Ouais, je le rabaissais. Mm. Et c'est vraiment... Quand ma partenaire m'a dit, ça, c'est un business, hein. T'as des centaines de milliers de personnes qui viennent. Enfin, ça, c'est pas rien. J'ai dit, non, mais... les gens, ils peuvent... C'est un blog, quoi. Elle m'a dit non, pas du tout. Et maintenant, en fait, ça m'énerve quand les gens appellent ça un blog, parce que maintenant, je me rends compte qu'on n'est pas un blog, tu vois. C'est pas moi qui écris tous les trucs, on a une équipe, on fait des news globales, enfin, ça a complètement changé.
Oui, mais, c'est vraiment un webzine, enfin...
Absolument. Mais ouais, j'ai pris du temps à me prendre au sérieux en termes de Green Queen. Et c'est que quand je commençais à aller à des endroits et les gens me disaient « Ah, t'es Green Queen, ah, Green Queen, Green Queen !» J'avais pas compris. Je me disais non, je suis focalisée sur Eco Warehouse, c'est beaucoup plus sérieux, c'est du commerce, tu vois, c'est global. Et c'est vrai que c'est un business que j'adore aussi, mais Green Queen, ça a vraiment, je sais pas, ça a laissé une marque. Ouais. En devenant une marque, ça a vraiment laissé une marque pour les gens à Hong Kong.
Ah oui, clairement, ça a changé, ça a changé l'univers du green à Hong Kong. Hein.
Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ça a vraiment été une plateforme où on a vraiment encouragé les petits fondateurs, les petits commerçants, les producteurs de produits artisanaux, les fermes bio, enfin les gens qui vraiment n'avaient pas la chance d'avoir leur histoire partagée, parce que franchement, le SCMP et les autres médias, ils couvraient pas du tout. Hein.
Non.
Donc au moins, ça leur donnait des références. Et franchement, moi, avant de commencer ce métier, j'avais pas compris à quel point ça fait plaisir aux gens d'être vus sur une média. Mm. Ça valorise les gens et je l'abaissais aussi, ça, un peu.
Ça crédibilise aussi une activité professionnelle, surtout quand on a une activité artisanale. De voir son nom dans un journal, etc., ça te crédibilise. Tu dis « Ah bah oui, regarde, on parle de moi ».
Un peu comme toi avec ton podcast, je suis sûre que tu aides à donner aux gens cette valorisation, surtout les gens qui sont un peu plus nouveaux dans leur trajet, qu'ils viennent de commencer.
Bien sûr.
Et ça a vraiment donné aux gens une plateforme. Une plateforme pour partager ça. Et je sais, ils me racontent qu'il y a des gens qui ont reçu des grosses opportunités à travers leur article sur Green Queen. Donc ça me fait vraiment vraiment plaisir d'avoir pu aider à faire grandir et à donner une voix à tout ce beau travail.
Et tout à l'heure tu disais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont investies dans le lifestyle, même dans le green, dans l'environnement, etc. Comment t'expliques ça? Pourquoi il y a plus de femmes qui entreprennent? Toi aujourd'hui t'en rencontres beaucoup, des entrepreneurs à Hong Kong dans l'univers du bio, de healthy et compagnie. Pourquoi plus de femmes, à ton avis?
Pourquoi plus de femmes? Alors déjà, ce que la majorité des gens ne comprennent pas ou ne savent pas, c'est que le pouvoir du consommateur, c'est avec la femme. La femme dépense 80 à 90% du budget de la famille. Donc, c'est la femme qui prend toutes les décisions quotidiennes qu'on fait en termes de ce qu'on mange, les produits qu'on utilise dans la salle de toilette, dans la salle de bain, les produits qu'on utilise dans la cuisine. Donc, il y a une connexion journalière, quotidienne qu'une femme a avec tout ça, que je pense que les hommes ont moins. Mais ça change, hein. On est d'accord que dans notre génération,
bien sûr,
les papas et les maris sont différents. Mais si tu penses à la génération d'avant, moi, mon père, il prenait pas les décisions pour quel genre de dentifrice on achète et quel genre de ketchup, je sais pas. Enfin, si on achète bio ou pas, ça c'était maman. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment les femmes qui ont été exposées aux conséquences de leur achat. Donc, si c'est toi qui achètes et c'est toi qui vois sur les réseaux sociaux qu'il y a du plastique dans la mer, c'est toi qui va te dire « Ok, d'accord, il faut que je change. Pourquoi est-ce que j'achète des bouteilles de plastique quand je pourrais avoir un filtre d'eau à la maison ?» Tu vois ? Donc, déjà, il y a ça. Deux, il y a le point sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, les réseaux sociaux sont une raison très importante pour la puissance du mouvement bio, santé, green, écolo, anti-plastique. Parce que les réseaux sociaux, surtout Instagram, je vais dire, ont vraiment pu donner un sorte de côté visuel à toutes ces campagnes et à toutes ces news. Et le visuel, c'est très puissant pour nous en termes d'être humain. Enfin, quand on voit une image, quand on voit quelqu'un qui est en train de... Quand on voit une baleine remplie de plastique, ça nous touche d'une façon qu'un article ne peut pas. Et donc, et en plus, les femmes vivent sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons les plus importantes, c'est que les femmes ont été mises de côté dans les médias plus formels, plus traditionnels. Et donc, c'est clair que les femmes ont pris aux réseaux sociaux...
ont pris la parole sur les réseaux.
Absolument. Ouais. Et ont compris immédiatement qu'il y avait un pouvoir d'avoir une chaîne à soi où tu peux disséminer l'information et les dates que tu veux et qui t'appartient et qui n'est pas sous l'œil du masculin, quoi. Qui est l'œil qui est sorte de en charge de notre vie, quoi. Si tu veux. Un peu trop.
Ouais.
Donc, il y a un pouvoir, là. Et c'est clair que Instagram, si tu regardes Instagram, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes, les comptes. Et donc, ça c'est connecté. Tout est connecté en termes du réseau social, du fait qu'il y a plus de femmes sur les réseaux sociaux, du fait que les femmes peuvent vraiment partager leur vie. Aussi, Instagram, ça a vraiment donné ça a valorisé le quotidien d'une maman ou d'une femme ou d'une... en termes de faire la cuisine, de s'occuper de ta maison, d'une façon qui n'a jamais été valorisée.
Ouais, c'est vrai. Très, très intéressant. Tu as étudié à l'université...
L'anthropologie.
Oui.
C'est une de mes concentrations, oui.
Ça se sent quand tu parles. Enfin, j'ai lu un peu ton parcours et c'est vrai que quand tu racontes ça, on le sent.
Je suis un peu obsédée avec tout ce qui est la culture, quoi. Enfin, en fait, c'est très intéressant. Enfin, comment est-ce que cette culture écologique s'est développée ?
Oui, bien sûr.
Et c'est absolument clair que...
Bah, elle a pris un tournant exceptionnel avec les réseaux sociaux.
Le visuel. Ça a accéléré les choses. Comment est-ce qu'on aurait réussi à atteindre ce niveau global de compréhension du problème du plastique sans ce côté visuel? Et bien sûr, la viralité. Faut aussi le fait que ça te connecte à tout le monde globalement quand tu es passionné par un sujet. Enfin, la viralité des réseaux sociaux est aussi un des facteurs très importants.
Et toi qui as grandi à Hong Kong, Singapour, un peu les États-Unis, qu'est-ce que tu observes à Hong Kong, plus particulièrement en matière d'écologie? Tu disais tout va très vite à Hong Kong.
C'est-à-dire les tendances sont très vite. Donc par exemple, si quand le bio a vraiment est vraiment arrivé ici. Tout d'un coup, tout le monde voulait parler du bio. Tout était bio, tout est bio. Tout est vraiment basé sur les tendances. Le problème, c'est qu'une fois que la tendance est finie, c'est difficile de garder l'intérêt des gens. Mais par exemple, pour le moment, on est vraiment dans un anti-plastique, tendance anti-plastique. Donc, tout ce qui est magasin zéro déchet, plastic free, ça marche super bien. Les gens veulent ce lifestyle. Je pense que Hong Kong, pourquoi est-ce que les tendances, ça marche très bien à Hong Kong? C'est que Hong Kong, c'est vraiment une société très consommatrice, qui est très, en termes de le statut que les objets te donnent, c'est très important ici. Et ça continue à l'être. Donc, des fois, tu as un peu l'impression que oui, les mouvements écologiques sont à la mode, donc les gens veulent participer. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt plus profond ou est-ce que c'est un intérêt qui va vraiment durer plus qu'une tendance, hein? C'est un peu pareil avec manger vegan, tu vois. Mais Hong Kong a un monde, a une communauté écologique très très forte. Et ce qui est incroyable avec Hong Kong, c'est que c'est petit dans le sens que quand tu veux faire quelque chose, tu peux vraiment avoir un effet très 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 puissant et très très grand, qui serait beaucoup plus difficile à faire, par exemple à Paris ou à Londres, où c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus difficile d'établir les choses, de commencer. Être entrepreneur, enfin, je pense qu'il y a une raison pour laquelle tous les entrepreneurs français sont ici. C'est clair qu'il y a un sorte d'esprit de fondateur ici qui est très, très fort. Et donc, c'est ce qui est bien pour tous ces mouvements bio, écolo, anti-plastique. Mais les gens, hier soir, j'étais à un panel et quelqu'un m'a dit « Oui, mais ton site, il est en anglais et les locaux ?» En fait, je lui ai dit non, en fait, un tiers de nos lecteurs ont leur téléphone en chinois. Enfin, c'est des locaux. Mais ils sont OK pour lire en anglais, juste comme la CMP, c'est en anglais aussi. Mais ça ne veut pas dire que les locaux ne le lisent pas. En fait, les locaux, comme beaucoup de gens dans d'autres pays, se rendent compte que, attends, il y a une urgence en termes du climat et de l'environnement, et Hong Kong va souffrir. Le typhon qui est venu l'année dernière, enfin ça a vraiment marqué la ville en termes de faire comprendre aux gens que les choses vont changer et qu'il faut absolument qu'on change en termes de consommateurs, en termes de citoyens, en termes d'être humain, comment on vit, ça doit changer. Et je pense que il y a absolument un sort de mouvement hongkongais en termes écologiques qui est là et qui est fort et qui devient de plus en plus fort. Donc je pense pas que c'est seulement les expats qui amènent leurs idées, pas du tout. Et nous sur Green Queen, on est très 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 dédiés à vraiment montrer ce côté local de la communauté d'Hong Kong, que ce soit pas un sort de truc qui vient juste des expats.
Ouais, ça c'est vrai que tu mets un point d'honneur sur ton site à mettre tout le monde en avant, que ce soit des locaux, des expats, voilà, tout le monde a sa place sur ton site. Est-ce que c'est parce que toi tu as grandi ici et que Hong Kong c'est ta maison?
Absolument. Je pense que ça c'est vraiment aussi quelque chose qui a donné à Green Queen un côté un peu différent et qui a fait que les locaux me font confiance et qu'il y a une sorte de... on est simpatico parce que vraiment j'ai grandi ici, mon fils il est né ici, mes parents ils sont là depuis il y a 40 ans, c'est pareil avec mon mari aussi, il est né ici. On n'est pas juste venu pour 2 ans pour profiter, puis boum, on s'en va. Parce que des fois, il y a un peu ce côté de pour les expats où ils peuvent facilement venir ici et c'est pas vraiment leur ville, c'est pas leur communauté, c'est pas où ils ont grandi, donc t'as pas cet attachement que j'ai moi. Et c'est cette compréhension de la culture et de connaître la ville. Et enfin, pour moi, Hong Kong, on est là. On va, c'est pas qu'on va ailleurs. Donc, il y a une vraie passion pour vraiment faire grandir le mouvement parce que je veux que ma ville puisse, résister aux effets les plus détrimentaux
et se transformer
et être prêt pour ce qui vient.
Ouais, on est d'accord. On se souvient bien du typhon de l'année dernière et j'imagine pour toi qui as grandi ici que c'était spectaculaire, que ça faisait des années. Je sais même pas s'il y avait eu un typhon aussi violent.
Ça faisait très très longtemps. Et c'est la première fois que les médias ont vraiment mis tout leur leur pouvoir pour vraiment montrer à quel point c'était lié au climat et aux extrêmes du climat qui vont devenir plus, de plus en plus communs. Cette année, on a été chanceux, mais bon, c'est pas fini, hein, parce que ce qui s'est passé, c'est que la saison des typhons, en fait, elle a bougé. Mm. Donc, en fait, beaucoup de gens vont dire, on n'a pas eu beaucoup de typhons cette année.
Ça va venir en septembre.
En fait, ça va venir, hein, c'est septembre-octobre que ça va venir. Et avant, c'était plutôt juin, juillet, août. Donc même en 10 ans, ça a changé depuis que je suis revenue. Et c'est bien du point de vue, du côté que les gens se sont rendus compte que, attends, on a des gros problèmes structuraux qu'il faut vraiment adresser. Bon, après, le gouvernement, c'est autre chose. mais je pense que même eux, ça les... J'ai quelques connexions qui m'ont dit que ça a forcé qu'ils mettent tout en question.
Ouais, ça les a alertés.
Parce que c'est des... Après, une fois que le climat commence à impacter le business et la vie des citoyens et qu'il y a des coûts additionnels, tu vois, c'est là où l'action va venir.
Comme avec la pollution de l'air.
On est vraiment derrière, là, par contre.
On est derrière, mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte très cher à la société, finalement, parce que les gens sont malades.
J'ai pas l'impression qu'ils font les maths.
Pas encore, mais je pense que ça viendra.
Ça va venir, c'est clair. Et en Chine, ils prennent en conscience tout ça. Parce qu'eux, ils ont des encore beaucoup plus grands, les problèmes de santé à cause de la pollution de l'air. Et eux, ils ont des problèmes de pollution d'eau, pollution de la terre, du sol. C'est vraiment... Je pense qu'il y a 20% de la terre en Chine qui est absolument morte et toxique. Et elle ne peut pas être sauvée.
Ouais, on ne peut plus y remédier.
On ne peut plus les remédier. Donc, c'est vraiment un problème de sécurité nationale. Et c'est ça qui me choque toujours. Et... Enfin, Green Queen, on essaie d'être optimiste, on essaie d'être positif, mais en ce moment, on commence à être un peu plus sérieux des fois avec nos titres, parce que ce qui se passe avec le climat et les problèmes d'environnement et la façon dont on consomme, etc., c'est des problèmes de sécurité internationale. Enfin, on a un problème où on ne sait pas comment on va faire pousser la nourriture dont on a besoin globalement dans 10 ans. Il y a des ingrédients comme le chocolat, le café, on va plus avoir assez de place sur Terre où l'environnement va être adapté à pouvoir faire pousser ces plantes pour pouvoir avoir le même volume qu'on consomme aujourd'hui. Donc les choses vont changer et ça va devenir beaucoup plus sérieux.
Il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas de choix. Après, je ne sais pas si on comprend ça à un point assez profond, assez personnel.
J'espère qu'on comprend.
Je continue à espérer.
Est-ce que tu crois que tu souffres d'éco-anxiété ? Tu es jeune maman, tu as eu un petit bébé il y a 10 mois. Est-ce que ça t'angoisse de savoir dans quel monde il va grandir ?
Absolument. Ça m'a vraiment... Moi, j'étais un peu... J'ai toujours voulu être maman jusqu'aux les dernières 5 années où j'ai vraiment hésité. Enfin, mon mari, il voulait vraiment... avoir un enfant, et moi j'étais ça m'a donné plus d'angoisse que le quotidien en termes d'anxiété, parce que franchement je pense que faire des changements plus écolos, c'est pas si difficile que ça. Si t'as la volonté, tu le fais, mais on le fait, les couches qui sont
lavables,
ne pas utiliser de plastique, c'est très facile, et en plus c'est mieux pour le bébé. Franchement, notre bébé il a 10 mois, il a toujours pas eu un problème de peau. Parce que bon, il n'y a pas de plastique sur sa peau. Une autre chose que les gens ne réalisent pas, c'est que les couches non lavables, c'est du plastique.
C'est du plastique, ça coûte beaucoup plus cher.
D'accord.
Sur le long terme, ça te coûte beaucoup plus cher.
D'accord.
C'est du plastique.
Ce n'est pas un argument qui marche très bien ici. C'est un argument qui marche très bien aux États-Unis. Et les blogueuses, elles utilisent cet argument avec beaucoup de succès. Mais ici, ça n'a pas l'air de vraiment changer les choses. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, après, ton budget, c'est personnel. Mais en termes de la santé de ton enfant, parce que moi, ce que j'ai très vite compris avec Green Queen, quand on a commencé, c'est que le message de la planète n'est pas aussi fort que le message de la santé personnelle. Donc, si tu veux faire comprendre aux gens, il faut le personnaliser. Et surtout, il faut le personnaliser sur le point de vue de leur enfant. Parce que tout le monde, c'est universel qu'on veut que notre enfant ait la meilleure vie possible, soit sain, soit... et tout, les, par exemple, c'est complètement irrationnel que les parents achètent le bio pour leurs enfants, mais pas pour eux-mêmes. Mmh.
Mais c'est vrai.
La majorité de nous, on fait ça. Donc, voilà. Si tu veux vraiment faire changer les gens, fais-leur penser à leurs enfants. Mais il y a toujours un gros manque de compréhension de toutes les décisions qu'on prend et le fait que ça a sur les enfants. Et ça, c'est pas la faute des consommateurs. C'est que, bon, les grandes entreprises et les entreprises pharmaceutiques, tout ça, les gouvernements, ils veulent pas que tu le saches.
Bien sûr. Et puis, si on te propose des couches jetables où on te dit, mais elle est super, super absorbante, très hypoallergénique, ce sera parfait pour votre enfant, toi, t'y crois parce que c'est le message qu'on veut te faire passer. Et tout le monde n'a pas la force, l'énergie,
le temps
de se renseigner et de remettre en question ce qu'on te dit, en fait. Et tu prends pour acquis, en fait, ce que les industriels
Absolument.
Te disent.
Et ça t'amène beaucoup d'angoisse si tu commences à douter tout ce que tu as acquis.
Bien sûr.
Ça, c'est vraiment... C'est là où l'anxiété vient. Pour moi, cette période, je l'ai vécue. Il y a 15 ans, quand j'ai vraiment compris que tout ce qu'on m'avait raconté, c'était n'importe quoi. Après, tu deviens... tu fais plus confiance à ce qu'on te dit. Enfin, bon, après, t'as aussi, moi, j'ai aussi une tête de rechercheuse. Enfin, c'est comme ça que j'ai été entraînée à la fac et dans mes autres boulots. Donc, moi, je suis toujours quelqu'un qui va me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'agenda ici? Mais pour la majorité de nous, on prend ça, enfin, on fait confiance aux autorités.
Bien sûr.
On se dit, non, ce qui est vendu dans les magasins, c'est sain. Ça va pas nous faire du mal, c'est pas toxique.
Bah oui, si on vend des couches, pourquoi on voudrait abîmer les enfants? Pourquoi on voudrait mettre leur santé en danger?
C'est impossible à comprendre. Mais bon, aussi, c'est là où entre la discussion de... C'est pas que toutes les entreprises ont des mauvaises intentions, mais c'est que on adopte très vite des technologies sans comprendre les effets.
Et puis on est quand même toujours leadé par l'économie.
Après, il y a le concept du capitalisme où vraiment tout est growth, 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 shareholders, growth, shareholders, returns. Tout est centré sur le chiffre d'affaires, quoi. On est obsédé avec le shit à faire et il faut absolument qu'il pousse et on s'en fout un peu de l'effet qu'on a sur la planète, sur l'humanité, sur les... Enfin, oui, ça, c'est un gros sujet. Ça commence à vraiment changer. On est en train de travailler sur un grand article en ce moment, un article en profondeur, qu'on veut faire plus d'articles comme ça. Et c'est à propos de ce qu'on appelle en anglais le « long-termism », ce qui est un concept un peu plus récent en ce moment, surtout dans le monde de la finance et du business, parce que vraiment, les PDG, en fait, s'ils sont responsables, il faut qu'ils commencent à penser aux coûts environnementaux de leurs décisions. Et c'est plus quelque chose que tu peux ignorer en termes de... Si t'es un PDG. Ce qui a vraiment changé, parce qu'il y a 10 ans, tu pouvais l'ignorer. Mais en fait, maintenant, il y a un coût matériel qui est assez choquant et qui peut vraiment faire du mal à ton business.
Ça va trembler à Hong Kong quand tu vas sortir cet article.
Je ne sais pas. Ça dépend si... Je ne sais pas combien de PDG lisent Green Queen. Mais je sais que, par exemple, même le CEO de BlackRock... aux États-Unis, c'est lui qui a vraiment relancé le terme et qui a dit qu'il faut absolument qu'on change. Et maintenant, tu as des groupes d'investisseurs globaux qui ont pris le pas de vraiment aller voir tous les PDG des sociétés dans lesquelles ils sont investis et leur dire, écoutez, il faut absolument que vous commencez à valoriser les coûts environnementaux de vos décisions et ça doit être dans le balance sheet, ça doit être sur les rapports parce que il y a pas de choix. Sinon on va enlever nos investissements. Donc il y a vraiment il y a une force qui se passe et ça il y a 10 ans on aurait rêvé de ça. Mais franchement on est à un point maintenant où c'est pas un choix. Et c'est même pas que les gens sont en train de le faire parce qu'ils sont c'est pas du bon cœur, c'est du bon business à ce point. On est arrivé à un point où tu n'as plus le choix.
C'est une question de survie.
Voilà, Si tu veux que ton entreprise continue à s'épanouir et à avoir des retours, que ce soit financier ou autre, il faut absolument que tu inclues le coût environnemental de toutes tes décisions. Ce qui a vraiment changé là.
Ouais. Ouais. On prend le bon tournant, je pense.
Oui. Mais après, est-ce que
ça n'empêche pas l'éco-anxiété, mais...
Oui, mais l'éco-anxiété, maintenant, je pense que ça fait partie de la vie. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à l'éco-anxiété? Enfin, c'est un terme, tu vois, qui est devenu très tendance. Mais finalement, si tu c'est un peu... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la human anxiety, tu vois, pour tout ce qui arrive à tous les gens malheureux dans le monde, enfin, tu vois,
c'est un
peu la même chose. Mais après, si tu es quelqu'un qui lit les news et que tu t'informes sur ce qui se passe dans le monde, un niveau d'anxiété un peu, c'est un peu ça, tu vois, parce qu'après, tu peux pas vivre une vie sans anxiété, sinon tu vas jamais être touché à changer,
ben non.
Tu vois.
Bien sûr. Et puis au final, ça fait partie de la vie. C'est un des problèmes majeurs du moment. Mais voilà, tu vis avec et juste.
Absolument. Comme on est maman, on sait qu'on va toujours avoir de l'anxiété maman, tu vois. Et c'est pas que quelqu'un peut te dire ah voilà 10 steps pour enlever ton anxiété maman. Non, je suis désolée. Enfin ça c'est dès que tu accouches, voilà ton anxiété maman elle commence et puis ça fait partie de ta vie. Bon après,
t'apprends
c'est à
vivre
toi
avec
de te mettre en question en termes de comment est-ce que tu peux gérer cette anxiété d'une façon saine, d'une façon qui te permet de survivre tous les jours sans péter les plombs. Enfin, si tu veux.
Je suis bien d'accord. Est-ce que toi, tu aimerais étendre Green Queen au reste de l'Asie, je ne sais pas, Singapour, Bangkok, la Thaïlande?
Absolument. Et on commence déjà à avoir du contenu à travers l'Asie, parce que vraiment, en fait, pour nous, la personne qui lit Green Queen, elle visite Singapour, elle va en Malaisie, elle fait ses vacances aux Philippines, donc c'est la même personne, tu vois, qui va partout, donc elle a besoin d'être informée pour tout ce qui est Asie. Et je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est que il n'y a pas eu un autre Green Queen qui est venu.
J'allais te poser la question, ouais.
Franchement, qui a le même DNA qu'on a, qui vraiment est là pour informer. Enfin, il y a d'autres mouvements, événements, etc. Mais en termes du fait que nous, on est vraiment le
média
et qu'on est là pour informer les gens, pour leur donner accès aux ressources, ça c'est pas... Je me disais toujours que quelqu'un allait commencer à Singapour ou en Malaisie ou en Indonésie ou en Thaïlande, mais
non.
Mais non.
Ça
et donc, j'ai été approchée plusieurs fois par des gens dans chaque ville, mais j'étais pas prête et je pense que c'était pas, j'avais pas la vision. Et maintenant, franchement, je pense que la vision, c'est vraiment, on peut être ici et avoir des journalistes partout et on peut partager des histoires. Et après, c'est une question de technologie pour présenter aux gens les infos qui leur sont les plus importantes en termes de où ils sont basés.
Ouais.
Mais sinon, on va absolument continuer à étendre le contenu pour qu'il soit plus Asie et pas que Hong Kong. On fait plutôt du Singapour, mais y a d'autres villes en Asie qui sont vraiment en train de changer.
Ouais, bah Bangkok par exemple.
Ouais, c'est génial.
Ouais.
Kuala Lumpur, Jakarta, Manila, c'est génial Manila. Enfin, si t'es vegan par exemple, il y a une super scène vegan, quoi. Tu vois, c'est génial.
Donc ça, c'est pour le futur de Green Queen.
Voilà,
c'est ce qui t'attend.
On veut vraiment s'étendre en Asie, absolument.
Alors, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets, Sonali. À la fin des interviews, en général, je demande trois petits conseils pour une personne qui a encore un peu besoin d'être poussée pour s'investir un peu plus dans son quotidien, qui a l'impression que c'est peut-être insurmontable ou que ça va être compliqué. Moi, j'essaye vraiment de faire passer le message que c'est très simple de changer des habitudes. Il faut 21 jours pour passer d'une habitude à une autre.
Absolument.
Et voilà, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu as changé facilement et que tu aimerais que les autres changent aussi?
Ma première suggestion, c'est toujours la même. Achète moins de trucs. Achète moins, en général. Et je pense que si tu peux te donner ce challenge de prendre un mois où tu n'achètes rien qui n'est pas un absolu que, dont tu n'as pas besoin absolument, par exemple.
Tu as besoin de manger.
Ok, on est d'accord. Et si tu as un bébé, tu as besoin de quelques trucs pour le bébé mais, ou pour tes enfants. Mais sinon, achète rien. Et fais un bilan, tu vois, après ce mois. Est-ce que tu as vraiment besoin de recommencer à acheter beaucoup de choses? Donc déjà, ça, ce concept de, d'acheter moins, de consommer moins, de te séparer de ton identité consommatrice, tu vois, de consommateur, c'est vraiment important, je pense. Et en plus, mentalement, il y a un effet super bien, tu vois. Le minimalisme, maintenant, ça s'étudie beaucoup en, dans la psychologie et dans le social behavior. Et on se rend compte que le minimalisme, ça aide les gens à vraiment se calmer, être plus posés, se concentrer mieux. Tu vois, quand tu es dans un espace net, tu produis mieux.
Enfin, ouais, se recentrer.
Ça te recentre. C'est méditatif presque, tu vois, d'être minimaliste. Et bien sûr, si tu fais attention à tout ce qui est le bouddhisme, la spiritualité indienne, surtout et toutes les spirituelles, les philosophies de spiritualisme en Asie, le minimalisme, c'est une partie très importante de ton trajet spirituel. Parce que vraiment, être attaché aux choses, c'est vraiment le début de beaucoup de problèmes psychologiques. Donc déjà ça, c'est pas difficile de prendre un mois et de dire ok, je vais pas acheter de fringues, je vais pas acheter de produits tech, tu vois, je vais pas de gadgets, je vais pas acheter des produits, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais juste manger, c'est tout, et puis voilà. Et c'est là où tu commences ton trajet à vraiment valoriser le temps et les expériences plutôt que les choses. Donc déjà ça. Après, en termes de quelle habitude changer qui est personnelle à toi, moi, je dis toujours aux gens, qu'est-ce qui est ton... C'est personnel. Par exemple, il y a des gens qui adorent faire du shopping parce qu'ils adorent se fringuer bien. Tu vois, ils adorent la mode et tout ça. Donc là, prends cet endroit de ta vie et vraiment applique des habitudes un peu plus écolo. Par exemple, t'achètes tout vintage, par exemple. Donc déjà, ça, c'est ça qui t'intéresse, commence par ça. Si t'es vraiment dans tout ce qui est beauté, etc., peut-être... challenge-toi à te faire tes produits de beauté toi-même ou acheter des produits de beauté sans plastique, tu vois, sans packaging excessif, tu vois. Déjà, ça, c'est un autre endroit, tu vois. Donc, où est-ce que tu passes la majorité de ton temps et focalise-toi là-dessus. Parce que c'est pas la peine de commencer à penser à des trucs qui t'intéressent pas. Déjà, quand on est intéressé par quelque chose, on s'y met déjà plus facilement. Et c'est pareil, si t'adores cuisiner, ok, essaye de commencer à acheter tout ce que tu manges sans packaging ou dans du packaging qui est vert ou métal ou zéro plastique, par exemple. Est-ce que tu peux le faire? Donc, mets-toi des challenges qui sont personnels à ce que tu fais tous les jours. Et puis, ma troisième suggestion, c'est vraiment, informe-toi. Les Green Queen ou autres sites similaires, comprends les dates, garde toutes ces infos à l'avant. Et comprends que vraiment on est dans une période globale où on est arrivé au bout de la consommation extrême, on peut plus continuer comme ça.
Très bien, je pense que c'est trois très très bons conseils.
Désolée, c'est pas bon, utilise un je sais pas une brosse à dents en bambou, plus facile de dire ça, mais
non, c'est justement, c'est très bien. C'est très très bien, ça permet de réfléchir et surtout de penser à soi et son impact, parce que c'est pas parce que ton voisin a décidé de manger vegan que toi c'est ce qui va t'impacter le plus, et donc c'est ça
exactement
qui est important.
Fais quelque chose qui te parle, qui te touche. Et la réflexion, le mot que tu as utilisé, réfléchir, très important. Quelque chose qu'on pourrait tous faire plus.
Ça, c'est sûr. On va méditer sur cette question. Merci beaucoup, Sonali.
Merci. Un grand plaisir.
C'était très, très intéressant. Et puis j'invite tous les auditeurs de Basilic à lire Green Queen. C'est en anglais. C'est très facile à lire. Et voilà. À bientôt. Et voilà. Cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le faire découvrir à votre entourage et à me soutenir en me laissant un maximum d'étoiles sur la plateforme d'Apple Podcasts. Comme toujours, vous pourrez retrouver plus d'informations sur l'épisode, sur Mimosa et sur le site Green Queen en barre d'informations ou sur basilicpodcast.com. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt.